France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, nous avons la visite de François Morel qui n'en finit pas de nous surprendre, du théâtre à la chanson, en passant par le cinéma. Il est en ce moment à l'affiche dans J'ai des doutes, son spectacle en hommage à Raymond Devos. Une autre façon d'être lui-même et de cultiver son art de fantaisiste. François Morel à ce micro dans quelques minutes. En fin d'émission, Nicolas Destiendorf nous présentera son nouveau livre, L'encyclopédie du mauvais goût. Vaste programme que nous étudierons comme il se doit en musique.
With a chance to dictate, I would say, let it wait, I'd rather lead a band. My every care ceases, I'm rich as old Croesus, when I've got 10 pieces in hand. If I could have a millionaire with a whole flock of banks, I would just whisper thanks, I'd rather lead a band.
Vous savez combien je les aime, ces petites chansons swing des années 30 avec surtout ces voix haut placées, un peu entre chanteurs d'opérette et chanteurs de swing. Là, c'était Stuart Allen avec le Ritz-Carlton Orchestra dans une chanson d'Irving Berlin, I'd rather lead a band, autrement dit, j'aurais voulu être chef d'orchestre. Voilà, après s'être mis en jambe avec une chanson swing, on se relaxe avec la musique magique de l'excellente André Pop. Ça s'appelle Musique Magique et c'était le générique d'une émission Chanson d'écrivain en 1958. Tout cela pour vous recommander une nouvelle fois la musique même, ce merveilleux coffret des musiques d'André Pop qui vient de paraître chez Universal.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais il est temps de retrouver mon invité. Il est à l'affiche à Paris en ce moment à la Scala pour la reprise de son spectacle J'ai des doutes qui va bientôt repartir aussi en tournée dans toute la France. Et puis tiens, il vient aussi de sortir un livre pour enfants, Les bonnes résolutions du Père Noël. Bref, il continue ses chemins de traverse entre les genres les plus divers avec la fantaisie et la poésie qui le caractérisent. J'ai la joie d'accueillir ce matin François Morel.
Raconter la solitude, le vent qui souffle l'amitié, le mal de mer et l'inquiétude, le rhum qui fait tout oublier. Tous les marins sont des chanteurs, bananiam, bananiam, bababam. Tous les marins sont des chanteurs, bananiam, bananiam, bananiam. Pour décrire la fille au village qu'on a laissée un matin gris, la vaînée sans son corsage, doux souvenir de Tahiti. Tous les marins sont des chanteurs, laï la 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 la. Tous les marins sont des chanteurs, la 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 la. Pour emporter dans sa mémoire les tempêtes, la houle et le sel, pour espérer un jour revoir toutes les filles de La Rochelle. Tous les marins sont des chanteurs, la 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 la. Tous les marins sont des chanteurs, la 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 la. Que l'on se souvient de Mimi, Dédé et Jeannot, ces gars si fiers d'être marins qui ont péri sur leur rafio. Tous les chanteurs sont pas marins, tous les marins sont les chanteurs.
Moi, si on m'avait dit que je présenterais un jour à ce micro une chanson de marin en duo par François Morel et Bernard Lavilliers, j'aurais pas cru.
Bah ouais, je comprends. Moi, si on m'avait dit que j'allais faire un jour un duo avec Bernard Lavilliers, je croyais pas non plus.
En plus, dans des chansons bretonnes.
Voilà.
Vous n'êtes breton ni l'un ni l'autre, François.
Pas du tout, non. C'est une chanson de Yves-Marie Le Guilvinec. Ouais. Contemporain de Théodore Botrel, qui a écrit un certain nombre de chansons, qui est mort à 30 ans.
Un vrai barde.
Voilà, et on va faire un spectacle avec Gérard Mordilla autour de ces chansons-là. Et là, il n'y aura pas Bernard Lavilliers, mais je suis quand même très fier qu'il...
Bah oui, dites donc, ça fait...
Ah oui, c'était tellement agréable aussi de travailler avec Bernard Lavilliers.
C'est vrai?
Ah ouais.
Vous connaissiez?
Bon, on s'était croisés, il me l'a rappelé, moi évidemment je m'en souvenais, on s'était vu dans un restaurant à Montpellier, mais genre 20 ans plus tôt, et là on a parlé de plein de choses, on a beaucoup parlé de Cosimon notamment, parce qu'il aime beaucoup Cosimon, on a parlé de Léo Ferré, on a parlé de plein de choses, et il est très bavard et très agréable.
Voilà, il faut dire que cette musique bretonnante, donc, elle est faite avec votre complice Antoine Salaire,
qui a fait tous les arrangements
aussi tout à l'heure, puisque ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. J'ai lu d'ailleurs, parce que j'ai préparé l'émission quand même, qu'en 2013, vous pensiez acheter une maison dans le golfe du Morbihan.
Ça y est, on l'a.
Ça y est, c'est fait.
Ouais,
c'est
pas bon. Dans quoi j'ai dit ça?
Je ne sais plus. Vanity Fair, je crois. Bon. Je sais plus. Et alors, vous êtes content dans le golfe de Morbihan, vous qui êtes normand, parce que normalement, entre la Normandie et la Bretagne, c'est pas toujours simple.
Ah oui, mais vous par exemple, vous détestez les Bretons, vous qui êtes du côté de la Seine-Maritime, je crois. Hein.
Oui, c'est ça, moi ouais. C'est le Havre, c'est beaucoup plus au nord.
Moi j'ai cherché la mer, parce que j'étais quand même vraiment dans le bocage normand.
Ah oui, dans la Normandie profonde.
J'avais envie de me rapprocher de la mer.
Mais en fait, le Havre était une ville de Bretons, parce que tous ceux qui naviguaient étaient des Bretons.
Bien sûr,
Donc vous êtes rapprochés de la mer.
Voilà.
Voilà, c'est là que vous passez vos meilleurs moments, mais aussi pour nous, heureusement, c'est sur scène, donc à Paris en ce moment, à la Scala, un théâtre où vous vous sentez bien, j'imagine.
Ah oui.
Parce qu'il fait plein de choses, ce théâtre, depuis qu'il a réouvert.
Oui, c'est la deuxième année. Je crois que ça a été un cabaret. Je ne sais pas si ça a vraiment été un théâtre. Ça a été un cinéma porno pendant de très longues années.
Ça a été un haut lieu du café-concert aussi, il y a très longtemps.
Voilà. Ouais. En général, on dit, c'est là Maurice Chevalier a chanté, mais je pense qu'il y avait plein de cafés-concerts où Maurice Chevalier avait chanté.
Non, oui, j'imagine. Et surtout dans ce quartier, évidemment, du boulevard de Strasbourg.
Ouais. Non, c'est un très beau lieu, on est extrêmement bien accueillis là-bas. Et puis, je trouve qu'il y a une belle proximité avec le public. C'est un peu entre le théâtre et le cabaret. Et mon spectacle lorgne aussi du côté du cabaret, donc ça marche très bien.
Voilà. Spectacle qui vous a valu d'ailleurs un Molière, hein, qui avait déjà été donné au Rond-Point en 2018. On va en reparler, évidemment, puisque vous avez choisi de faire revivre une partie du répertoire de Raymond Devos. Mais alors, j'ai lu aussi que vous regrettiez un jour, parmi les regrets de votre vie, c'est de ne pas avoir appris le piano. Mais là, pour ce spectacle, vous avez quand même appris le mélodica.
Oui.
C'est un instrument très important, sous-estimé.
Très sous-estimé. Et oui, je suis quand même pas mal imposteur dans le spectacle, mais le mélodica.
Vous le jouez vraiment, celui-là?
Ah, bah évidemment, dites donc, sans trucage.
Vous avez pris des cours?
Non.
Non, vous avez appris tout ça.
J'aurais dû, c'est ça que vous voulez me faire dire. Vous avez raison.
Non, mais disons que c'est un spectacle très musical. Moi, j'ai dit même dans l'introduction, spectacle musical. Je sais pas si le terme vous convient.
J'ai l'impression que tous les spectacles d'humour sont musicaux.
Ah oui?
Ouais, je crois. Hier, par exemple, je me suis planté sur le mot d'un dernier sketch. Si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai bafouillé sur s'en empare. Évidemment, ça fait un bide, donc je vais essayer de bien le dire ce soir.
Ah oui, il faut que chaque note soit juste.
Absolument.
Et bien jouée.
Ben oui, ouais.
Et
ouais.
Puis, Devos, c'était quand même un passionné de musique. Je crois que vous êtes allé dans sa maison qui est pleine d'instruments.
Oui, c'est devenu un musée aujourd'hui et il y a plein d'instruments de musique. Oui, c'est marrant. Puis il avait plein de... il y a plein d'instruments où il mettait les notes dessus, où il écrivait lui-même. Il avait des repères et tout ça parce que c'était, je pense, pas un grand musicien, mais...
Mais il préparait très précisément, méticuleusement.
Il y avait une harpe aussi, il y a un piano, il y a plein de guitares, il y a plein de choses.
Ah bah, je propose alors d'ailleurs qu'on le retrouve tout de suite. Ensuite, Raymond Devos dans un petit passage de chansons, justement, de chansons brèves que vous reprenez en partie dans votre spectacle, les chansons que je ne chante pas.
Je vais vous chanter une chanson. Qui s'intitule « Souvenirs de vacances d'été pourries ». Bon, le titre, c'est « À quel été ?» Ah, quel été, quel été, quel été. Il pleuvait tant sur la côte où j'étais. On sentait bien que l'hiver était proche. On se baignait les deux mains dans les poches. La petite amie avec laquelle j'étais. Ah, quel été, quel été moche. J'en ai une autre, que je chanterai peut-être un jour si on insiste. Bon. Puisque vous insistez avec autant d'insistance. Elle s'intitule Conseil d'une Espagnole à son jardinier. Il y a que le titre est décourageant. Irait mal, disait l'Andalouse, à son jardinier imberbe. Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe. J'en ai une meilleure, parce qu'elle est plus courte. Ça s'intitule Se coucher tard. la nuit.
Raymond Devos, les chansons que je ne chante pas, certaines donc que vous reprenez,
les
trois,
reprends,
voilà,
oui,
oui c'est
ouais,
ça, dans votre spectacle en ce moment, à la Scala, où il y a vraiment un grand numéro chanté, hein, avec ces chansons. Bref, je me demande d'ailleurs, quand vous avez monté le spectacle, est-ce que ça vous aide d'écouter comment il faisait?
Pas tellement.
Ou est-ce que vous préférez partir à la limite du texte, presque, pour le refaire?
Je suis plutôt parti du texte, et puis évidemment des souvenirs que j'avais, parce que je l'ai quand même beaucoup vu à la télévision, et je l'ai vu aussi en spectacle.
Surtout les deuxièmes parties.
C'est-à-dire, oui. Moi, j'avais tout vu quand même. J'avais
c'était
vu
à Caen, hein.
À Caen, oui. C'est-à-dire, j'avais remarqué que il n'y avait pas de contrôle à l'entracte, donc, j'avais payé ma place pour le premier soir, mais deuxième,
les autres,
troisième.
Les autres jours vont venir à la deuxième partie.
Je revenais pour la deuxième partie. M'asseyais sur les marches et j'admirais, j'essayais de prendre des cours. Oui.
Voilà. Et donc, oui, alors vous avez réinventé avec vos musiciens à votre façon.
C'est avec Antoine Salaire. C'est vraiment grâce à Jeannine Rose, parce que qui est productrice des matinées classiques au Théâtre des Champs-Élysées.
Qui est même venue ici parce qu'elle adore la chanson.
Oui. Et puis elle avait travaillé notamment avec Barbara.
Exactement.
Et elle avait envie qu'on rende hommage à Raymond Devos en 2016, puisque c'était le 10e anniversaire de sa mort, et elle m'avait proposé de faire une matinée comme ça, une heure autour des textes de Raymond Devos au Théâtre des Champs-Élysées, et je pensais que ça serait un one shot, comme on dit à l'Académie française, et finalement j'ai pris tellement de plaisir, on s'est rendu compte aussi que ça avait une telle efficacité auprès du public, que je me suis dit il faut creuser le sujet, et puis on avait un peu oublié Devos en fait, et il n'a pas forcément une très bonne presse auprès des jeunes. On a l'impression que c'est désuet, que c'est fini, que ça ne fait plus rire. Et c'est toujours d'une efficacité inouïe. Puis je trouve que c'est comme les... Je le rapproche un peu parfois de Roland Dubillard, parce que ce...
Que vous avez joué d'ailleurs au
Rond-Point.
Que j'avais joué,
ouais, avec Jacques Gamblin, un beau souvenir. Ouais. Et c'est aussi mystérieux, parce qu'on se dit ça fait rire, mais ça fait rire avec l'angoisse de vivre et l'angoisse d'être au monde, quoi. Et ça, c'est merveilleux, parce que quand on lit ça, on se dit on va jamais réussir à faire rire, et c'est d'une efficacité comique formidable, surtout aussi parce que c'est très musical.
Mais moi, je vais vous avouer, ça me fait toujours un petit peu peur quand on reprend un personnage comme ça qui a existé, dont on a en plus des traces enregistrées. Alors je sais pas, quand on recrée Mistinguette par exemple, ou alors quand Jean Rochefort avait lui aussi
un beau spectacle,
repris
Fernand Reynaud,
et puis même quand on reprend Guitry, parce qu'on a Guitry dans l'oreille, etc. Et là je trouve que dans votre Raymond Devos ça marche merveilleusement. On se pose même pas la question de savoir si c'est Devos ou si c'est Morel. On y est, quoi.
Des fois,
pendant tout le spectacle.
C'est un peu les deux. Parce que je me suis pas interdit non plus. Je me suis dit qu'il fallait que je respecte le fond plus que la forme. Et là, on voit bien dans ce qu'il fait dans les chansons, là, les choses qu'il dit entre les chansons, il les improvise un peu sur le moment. Et je pense qu'il les améliore aussi d'une soirée sur l'autre. Et le musical, ça a besoin aussi,
cette
liberté-là et ce contact avec le public, avec le musicien. Parce qu'il avait aussi un rapport très important avec son pianiste, et ce qu'on organise avec Antoine Salaire et avec Romain Lemire, c'est aussi des choses comme ça où on se surprend l'un et l'autre, etc. C'est très important.
Mais vraiment, vous êtes merveilleusement vous-même, et je me demande si c'est l'humoriste que vous auriez choisi, si on vous avait dit tu vas monter un spectacle autour de quelqu'un, ou est-ce que c'est simplement parce que Jeannine Rose vous en a parlé, ou est-ce que vous auriez vraiment choisi Devos parce que c'était pour vous la référence, l'artiste?
C'était une grande référence, mais en même temps, moi je suis assez ouvert comme garçon, donc il y a plein de choses que j'ai aimées, qui m'ont fait rire, et peut-être aussi que finalement j'aime bien faire allusion à la politique dans mes chroniques de France Inter, mais je crois que le soir, quand on sort et qu'on va au théâtre, j'ai plutôt envie qu'on les oublie, ces hommes politiques. Donc le fait que Devos fasse rire avec le bon Dieu, avec les étoiles et avec notre rapport au monde, ça me plaît plus, ça m'intéresse plus. Par exemple, à l'époque aussi, moi j'étais très admiratif de Guy Bedos, qui m'a fait énormément rire. C'est plus difficile de faire un spectacle où il y aurait des allusions à Raymond Barre et à Giscard d'Estaing, parce qu'on ne saurait plus de qui on parle. Donc voilà, Devos reste peut-être plus intemporel.
On va y revenir d'ailleurs à Raymond Devos, mais je propose qu'on fasse un petit retour plutôt, François Morel, dans de lointaines années, enfin pas si lointaines que ça, puis c'était votre tendre enfance.
autrefois dans ce petit moulin, il était une jeune meunière. Elle avait un sourire câlin, le teint rose et des cheveux de lin. Elle avait pour voisin de berger, et le soir, au bord de la rivière, sans jamais accorder un baiser, elle aimait les entendre chanter. Jolie meunière, aux yeux si doux, quelle chaumière préférez-vous? Jolie meunière, décidez-vous, ou pour Jean-Pierre, ou pour Jean-Loup. Tous les deux la pressaient de choisir, mais le jeu amusait la meunière, qui pour mieux aiguiser leur désir, se plaisait à les faire souffrir. Un beau jour, elle dit à Jean-Loup, j'ai donné tout mon cœur à Jean-Pierre. À Jean-Pierre, elle dit, calmez-vous, j'ai donné mon amour à Jean-Loup. Jolie meunière, aux yeux si doux, vous étiez fière qu'il soit jaloux. Jolie meunière, souvenez-vous, pauvre Jean-Pierre, pauvre Jean-Loup. Le plus sage oublia son chagrin dans les bras d'une tendre bergère. Le plus triste accepta son destin et partit vers des pays lointains. La meunière en son petit moulin s'enferma pour la vie tout entière, et le temps poursuivant son chemin fit d'argent ses beaux cheveux de lin. Jolie meunière, aux yeux si doux, l'amour sur terre vaut mieux que tout. Jolie meunière, tant pis pour vous. Adieu Jean-Pierre, adieu Jean-Loup.
Certains auditeurs qui me réclament Georges Guettari, voilà, seront heureux d'avoir entendu cet extrait de La Route Fleurie de 1952. Vous n'étiez pas né, François non. Morel, en 1952, mais la chanson...
je connais beaucoup la chanson, parce qu'à chaque repas de famille, surtout les communions, les mariages, etc., maman chantait cette chanson-là, Suzanne Morel. Donc je connais plus la version de Suzanne Morel, qui faisait moins de variations.
Et de vocalises.
De vocalises, oui.
C'est joli.
Bon, c'est charmant.
La Route Fleurie, hein, opérette avec Bourvil et Guettari, créée à l'ABC en 1952. Mais vous, c'est vrai, on le sait, vous avez grandi, donc c'est dans le département de la Manche. Hein,
De l'Orne. Ouais, vous en prie.
Où l'on chantait
toujours
aussi...
Toujours ce mépris de la Haute-Normandie
pour la basse.
La méconnaissance des Hauts-Normands vis-à-vis des Bas-Normands.
Oui, cette vaste zone indéfinie. En tout cas, oui, parmi les chansons aussi marquantes, j'ai noté Marionnette de Christophe à la communion de votre sœur.
Oui, ça c'est vrai. Parce que j'avais chanté ça. La communion de ma sœur, alors je sais pas, elle est née en quelle année ma sœur
Vous auriez chanté
63,
ça.
Mais alors c'est bizarre. Ouais, est-ce que c'était pas la communion de mon frère, alors? Parce que quand même, tout d'un coup, les marionnettes, ça date de quand, ça?
60, je sais plus.
67, non?
Voilà. Et puis aussi.
Enfin, en tout cas, je me souviens que j'avais eu un grand succès. J'étais monté sur la table, j'avais chanté des marionnettes. J'avais eu le trac avant, j'avais eu beaucoup de plaisir pendant, et j'étais épuisé après. Et je me, voilà.
Mais donc vous aviez déjà une certaine ambition de chanteur.
J'étais jeune. Oui. Au début, quand ma grand-mère me demandait ce que je voulais faire, j'avais dit Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.
C'est pas mal comme métier, ça.
Ouais, j'ai trouvé. C'est un peu ce que je fais, d'ailleurs, à ma manière.
Voilà. Et puis, oui, il y avait encore d'autres chansons, hein, des oncles, etc., des refrains.
Mais chacun avait sa chanson. En fait, ouais. Je pense dans toutes les familles, non, en général.
C'est vrai, moi, j'avais un oncle qui chantait la tactique du gendarme au dessert. C'était à tous les coups.
Tonton Marcel chantait les gars de la marine. Ma tante Renée chantait « Voici le retour des guinguettes à nos gens comme à Robinson. Toutes les filles perdent de la tête, on peut faire des conquêtes dans chaque buisson. »
Oui, c'est resté, ça. Hein, c'est joli.
Je me demande si je ne l'ai pas entendu une fois dans une de vos émissions.
C'est tout à fait mon genre. Hein.
Ah bah oui.
Voilà, donc en tout cas, vous avez baigné dans ces chansons, comme nous tous. Et puis, il y avait aussi, alors pour notre génération, qui est la même, il y avait les humoristes. Donc on a évoqué Fernand Reynaud, recréé par Jean Rochefort il y a quelques temps, avec beaucoup de talent.
Magnifique. Oui, mais moi j'avais adoré ça. C'est encore Jeannine Rose, d'ailleurs, qui était à l'origine de ce spectacle-là. Et je trouve qu'il avait fait entendre toute la mélancolie des textes de Fernand Reynaud.
Et vous les suiviez, alors, ces humoristes? Donc, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, c'était vos héros?
C'était le samedi soir à la télé. Oui, il me faisait beaucoup rire. Les maudits rois fainéants.
Oui.
Et il y avait aussi, alors, Fernand Reynaud, je me souviens d'un jour, je crois que j'avais dit, c'était passé un 11 novembre, et quelqu'un a fait des recherches, et effectivement, peut-être c'était le 10 novembre, mais en fait, c'était un spectacle intégral de Fernand Reynaud à Bobino, et je me souviens du plaisir, du bonheur que j'avais eu de regarder ce spectacle-là, et je devais avoir autour de 10 ans, et c'était formidable, parce que c'était aussi un merveilleux mime. On dit d'ailleurs que le défilé militaire, c'était une idée, le défilé, vous voyez.
Oui, bien sûr.
Le défilé, c'était une idée de Raymond Devos qui avait été un peu volé par Fernand Reynaud. Enfin, c'est ce que disait Raymond Devos dans l'intimité, pas très content, quand il était devant un micro, il disait « Fernand l'a fait mieux que je ne l'aurais fait », ce qui était très chic de sa part.
Il y avait aussi tout ce sketch où toute une famille essaie d'éteindre un chandelier.
Oui, c'est bien.
Avec tous la même bouche tordue. Oui. C'est quand même assez extraordinaire tout ça.
C'est-à-dire qu'il y avait peut-être quand même plus de recherche dans l'écriture quand même chez
DeVos.
Parce
évidemment.
Que je crois que des fois, Fernand Reynaud, il reprenait des histoires qu'on se racontait et puis il les transformait avec un tel talent qu'il en faisait des sketchs et il les étirait et puis il se servait de sa personnalité qui était formidable.
On aurait même tendance à dire que de Reynaud, comme peut-être Robert Lamoureux, c'était un comique populaire, voire comment dire aujourd'hui populiste, alors que DeVos c'était plutôt un comique pour gens plus cultivés.
C'est ce qu'on dit, mais on a tort de le dire, parce qu'en même temps, DeVos par exemple emploie le langage de tous les jours, donc il a beaucoup travaillé ses textes, mais il n'y a jamais un mot compliqué, et je trouve que c'est très accessible.
Oui. Alors, il y a un autre duo comique que vous ne vouliez pas être, contrairement à Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, mais que vous avez aimé par la suite.
Ah, je crois que vous parlez de
Poiré et Serreau. Vous avez découvert plus tard.
Oui, parce que je crois même que on m'avait offert, ma maman, pour mes 10 ans, m'avait offert un disque de Raymond Devaux, de Poiré et Serreau, et j'avais demandé à ce qu'on le change parce que je comprenais rien.
Ah oui.
Alors, après, j'ai regretté parce que avoir un 45 tours
d'époque,
j'aurais beaucoup aimé, mais j'avais mauvais goût à l'époque, quoi. Je crois que je l'ai remplacé par un disque de Jacques Baudouin.
Ah oui.
Oui. Il y avait la table de multiplication qui était drôle, mais celui que j'ai eu après était quand même un peu moins marrant.
Alors, j'en ai ressorti un pour vous, moi, un très ancien que j'adore. J'ai mis un petit peu de musique dedans. C'était presque toujours, je crois, écrit par Poiré, mais un peu improvisé par les deux en même temps. Et ça s'appelle La vie de Chopin, vous connaissez?
Très bien. Chopin trompette.
Oui, Chopin trompette, oui, justement. Thank you.
reviendrons maintenant ici un peu pour te tremper dans l'ambiance française, puisque tu es quand même de souche française, il ne faut pas l'oublier, te reposer un peu.
Pas très longtemps, parce que je viens surtout en France quand même pour tourner. Je sais pas, je commence dans une huitaine de jours.
Ah, tu tournes encore ici?
Oui.
Ah, bah, vraiment inlassable. Oui. Tu viens tourner quoi dans...
Une vie de Chopin, tourner.
Ah bon, ah, ça se tourne ici finalement?
Oui.
En France même?
Sur les lieux même, on va faire.
Ce fameux projet voit le jour quand même. Oui. On va te voir pianiste alors.
Non, tu ne me verras pas pianiste. Non.
Enfin, pianiste, je dis ça, je sais bien que tu joues pas de piano personnellement.
Oui.
Mais qu'est-ce qui te double pour les parties piano?
Personne, il n'y a pas de piano.
Il n'y a pas de piano?
Non, il n'y a pas de piano.
Ils n'ont pas mis de piano dans la vie de Chopin?
Bah, en tout cas, dans celle-ci, il n'y en a pas, non?
C'est une vie nouvelle de Chopin, alors?
Bah, je ne vois pas.
Non, moi non plus, je ne vois pas exactement ce qu'on peut faire dans une vie de Chopin sans piano.
Ce qui s'est passé, c'est très simple. On m'a demandé, Monsieur Scott, est-ce que ça vous ferait plaisir de tourner une vie de Chopin? Je dis, mais est-ce que ça m'intéresse beaucoup?
Oui,
c'est vrai.
C'est quand même tentant.
C'est un très grand projet.
Oui, c'est quand même tentant.
Donc, pour la vie de Chopin, maintenant, pour le piano, ça n'est pas possible. Je ne sais pas jouer de piano.
Ah oui, c'est gênant.
Puis je suis trop vieux pour m'y mettre maintenant. On n'a plus l'agilité dans les doigts.
Une question de doigté, peut-être.
Et de toute façon, en 15 jours, je ne ferai pas quelque chose de bien épatant.
Tu n'as jamais joué?
Jamais.
Ah bah oui, alors non, faut mieux t'abstenir.
Pour le piano, pas possible. Mais par contre, je joue très bien de la trompette, n'est-ce pas? Alors voilà ce que je vous propose, c'est un Chopin trompette.
Ah, tu leur as mis le marché en main, carrément.
Ah bah c'était un Chopin trompette ou pas de Chopin du tout, puis c'était...
Ah bon, c'était à prendre ou à laisser. Oui, t'as accepté avec une trompette ou pas du tout.
C'est ça.
Ce qui fait qu'ils ont remanié le scénario, enfin partant de là, quoi.
Ah, remanié, non, quoi, c'est la vie exacte de Chopin, quoi.
Oui, il y a l'instrument qui change, quoi.
Oui, mais enfin, ça, c'est pas grave.
C'est pas très grave, bien sûr.
Non, c'est pas la vie de l'instrument qu'on fait, c'est la vie de Chopin.
Oui, c'est bien, de toute manière, qu'il soit trompette ou pianiste, c'est toujours le même, ça change pas.
Voilà, ça c'était un vrai Chopin trompette, François Morel. Ouais. C'est beau, hein.
Ah oui. Il parle de George Sand après aussi.
Oui, bien sûr, il y a toute l'histoire d'amour barque.
Je sais plus, puis il parle de son service militaire aussi.
Où Chopin, justement, parce qu'il joue très bien la trompette, joue le réveil à la caserne et ça fait pleurer tout le monde. Ouais. Voilà, en tout cas, une belle archive de Poiré et Serrault, François Morel, que vous avez fini par aimer finalement.
Ah ouais, mais j'adorerais ça. J'ai eu la chance de tourner avec Michel Serrault.
Et c'est vrai,
dans Le Bonheur et dans le Pré.
Oui.
Et donc, moi, je lui posais plein de questions sur cette période-là.
On dit qu'il n'était pas facile, cet homme.
Bah, écoute, moi, j'ai eu un très bon contact avec lui. Et j'allais dans sa caravane où il me racontait plein de choses, justement, sur ses années cabaret. On sentait qu'il avait eu une nostalgie énorme et qu'il pensait beaucoup à Jean Poiré, qui était aussi un acteur merveilleux. Quand on l'a redécouvert aussi dans les films de Chabrol et tout ça, parce qu'il y a toute une période où j'ai pas du tout tourné Jean Poiré, alors que je trouve quelle élégance dans le rire aussi, cet homme.
Oui. Alors, François Morel, donc, on sait que vous êtes ensuite, de votre campagne, monté à Caen.
Oui.
C'était la direction normale,
pour faire
des études de lettres. Donc vous aviez provisoirement renoncé à devenir Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.
Oh, j'avais ça quand même dans ma tête. Oui, je faisais des spectacles en amateur.
Vous chantiez un peu?
J'écrivais des chansons avec un copain, plusieurs copains même. Mais j'étais pas doué pour jouer de la guitare, moi. J'ai jamais été doué pour jouer d'instrument de musique, donc je me suis rabattu sur la comédie.
Voilà. Et vous êtes monté à Paris. Et alors, on associe souvent vos débuts, évidemment, très brillants et très populaires au Des Chiens et à toute cette série qui a enchanté le public. Mais en fait, il y a quelqu'un qui est revenu aussi régulièrement dans votre carrière et qui a été là très tôt, ça a été Jean-Michel Ribes.
Ah oui, Jean-Michel, j'ai rencontré en 1988 pour Palace. Ouais.
Voilà. Oui, c'était un de vos premiers rôles visibles.
Oh, oui, et puis c'était formidable parce qu'on jouait aussi avec des gens comme Jean-Yann. Le casting était merveilleux quand même, c'était formidable. Et puis il avait été extrêmement encourageant, Jean-Michel Ribes. Il m'avait dit mais si tu veux écrire des textes pour ton personnage, Alfred Le Groom, vas-y. Et puis je verrai si ça me plaît. Si ça me plaît, on en tournera. Donc ce qui m'a permis d'écrire des sketchs. J'étais très fier de participer à cet aréopage-là qui était formidable parce qu'il y avait Topor, GB, Jean-Michel Ribes, François Rollin, j'en oublie, mais
oui, c'est
des gens,
mal, ouais.
Des gens très fréquentables.
Et votre premier contact avec Deschamps et Makeïev, c'était où, comment ?
Ah, c'était d'abord parce que j'étais spectateur, j'ai vu plusieurs spectacles, je crois qu'il y en a un qui s'appelait Les Oubliettes, que j'avais vu dans la salle de la rue des Cordes à Caen. Ça m'avait absolument enthousiasmé et fait rire et bouleversé et plein de gens il y avait une partie du public qui supportait pas ça et moi je faisais partie.
Ah bon ?
Ouais, c'est vrai, ça c'était clivant un peu à l'époque. Il y a des gens que ça agaçait beaucoup. Moi j'ai trouvé ça merveilleux, drôle. En plus je voyais des gens ça évoquait des gens que j'avais pu rencontrer dans ma campagne et qu'on voyait jamais sur scène, donc je trouvais ça formidable. Et puis il y avait aussi là aussi un sens du rythme, un sens musical et une précision dans la représentation qui était absolument formidable.
Des gens que vous aviez connus, vous dites, dans votre campagne, qui était même du milieu d'où vous veniez, et pourtant on a parfois entendu la critique justement sur les Deschamps, ah oui c'est un spectacle qui se moque du peuple, aujourd'hui on dirait des gilets jaunes, de la France profonde...
Ouais, mais je sais pas. Moi, j'ai pas vraiment de réponse parce que si on le ressent comme ça, on doit avoir raison. Moi, c'est évidemment.
Mais vous n'avez jamais pas l'impression de les tourner en ridicule ces personnages quand
jamais...
vous jouiez.
C'est-à-dire peut-être qu'on a le droit de rire, quoi. Mais aujourd'hui, on.
Oui, c'est ça.
Voilà.
On n'a plus le droit de se moquer.
Ouais, même nous, on se moquait, mais je sais pas. Moi, j'aime bien me moquer aussi des gens que j'aime bien
et oui,
j'aime bien aussi me moquer de moi-même.
Oui.
Donc c'est assez sain de se moquer quand même, de rire un peu, de prendre un peu de distance. Et puis les accents, ça peut être drôle, les tronches, c'est drôle, on peut rire avec tout ça. Enfin, faut pas. Moi, j'ai plutôt pas envie de m'interdire de rire. Alors ces gens-là maintenant qui nous disent c'est l'ère du politiquement correct, on n'ont pas arrêté de mettre des barrières en disant ça, il faut pas rire de ça.
Ben,
moi, je pense qu'on peut rire de beaucoup de choses.
Et alors, bon, vous allez me pardonner parce que tout ça est loin. Et puis, vous l'avez entendu 100 fois, mais quand même, on est sur France Musique. Alors, j'ai pas résisté à en ressortir un petit.
Mais moi, j'adore.
Le chanteur d'opéra, évidemment, avec Bruno Locher.
D'accord.
Code de qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut, puisque c'est mon gars, Bruno Locher. Comment t'appelles-tu ?
Bruno Locher.
Bruno Locher, tu as quel âge ?
31 ans.
Et tu fais plus ? Et tu cherches
un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra ?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter ?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non. L'amour est enfant de bohème.
Non, dis rien, non.
Rien du tout. Donc, quelle est ta motivation première ?
Surtout, gagner pas mal de pognon.
Pas mal de... T'en foutes plein les fouilles, on
oui,
pourrait dire,
ça.
D'accord.
Surtout, m'en foutre plein les fouilles, oui.
Et ça, on s'entre rien foutre, enfin.
Oui, voilà.
D'accord, oui. Donc, tu accepterais de travailler peut-être assez loin, parce que des fois, il y a des opéras qui sont quand même à Miami, à Côte-le-Zout.
Oui, mais moi, ce que je préférerais, c'est rester aux alentours de la Sarthe.
Plutôt la région de la Flèche.
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord, la Flèche, Torigny.
Oui, Parigny-l'Évêque, Ivry-Paulin, Changé.
Caligny.
Oui, aussi.
D'accord,
oui.
Que ça ne soit pas trop loin.
Voilà, que ça soit pas trop loin.
Et quand même que, parce que des fois, c'est le soir, les opéras.
Oui, mais...
J'ai pensé à ça, je me suis dit. J'en parle à M. Locher, je me dis que c'est quand même souvent le soir.
Oui, mais comme moi, j'ai le gamin à aller chercher le soir...
J'ai pensé à votre gamin.
Oui.
Ça, je dis donc plutôt l'après-midi.
Oui, voilà, je préférerais l'après-midi.
14h, 17h, enfin.
Oui, ça serait très bien, ça.
Hein,
oui.
Comme ça permet de ramener le gamin après.
Oui.
Et puis d'être à la maison vers 18h ou 18h30, pour question pour un champion.
Oui.
D'accord, bon. Eh bien, donc, si quelqu'un est à Bastille,
non. Il n'en est pas question. Hein.
Voilà.
Moi, je n'ai pas envie de me faire baiser.
D'accord.
Tant qu'ils n'ont pas changé le directeur, je ne travaillerai jamais là-bas. Hein.
D'accord, bon, ben, c'est clair. Donc, s'il y a un directeur d'opéra qui est intéressé par mon gars Bruno Locher, donc un directeur d'opéra dans la région de la Sarthe, hein, la Flèche, d'accord, pour travailler l'après-midi, bon, ben, il tape pas de 36-15 code de qui n'en veut.
Oui.
Là, c'est moi. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais, jamais connu.
Non, non,
non, non, non, ça vous dit.
Non.
L'amour, l'amour, la. Non
non, 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 plus, non.
Petit chef-d'œuvre, hein. François Morel, né sur le vif comme ça dans l'improvisation, la réécriture, le travail,
l'improvisation, on le refait jusqu'à ce qu'on trouve une chose drôle et puis encore une autre et puis on essaie de la garder et puis on essaie de trouver la forme définitive en plusieurs prises. Parfois ça vient vite, parfois c'était plus laborieux. Là je me souviens plus, c'est trop vieux, je sais plus comment on l'a faite celle-là, mais enfin mais on m'en parle beaucoup. Par exemple tous les quand je vais voir un opéra et que je croise des chanteurs d'opéra, systématiquement, on parle de ça.
Il vous cite ce ouais. sketch avec Bruno Locher. Vous le voyez toujours, Bruno Locher?
Je l'ai eu au téléphone hier ouais. et j'ai eu des bonnes nouvelles de lui.
Voilà, parce que vous aviez tous vos vrais noms hein, dans les déchets. C'est ça qui était amusant.
Bah oui, on a essayé de se mettre en valeur.
Monsieur Morel. Et vous êtes resté peut-être lié plus particulièrement avec Olivier Saladin.
Ah oui, Olivier.
Avec
oui.
qui vous. Oh,
que j'ai
vous
vu, êtes mais quel grand acteur, cet oui, Olivier Saladin. Ah, mais moi je suis très admiratif d'Olivier. Je l'ai vu dans le spectacle des Chiens de Navarre. Il joue un vieux monsieur Alzheimer à la fin. Il est absolument bouleversant. Il est incroyable. C'est un acteur merveilleux. Il y a Lorella Cravotta aussi, qui était dans la bande des Chiens et qui est aussi. Sont des gens impériaux sur une scène de théâtre.
Et avec Saladin, vous avez notamment monté Instant Critique.
Ouais, hein. Bah j'avais mis en scène et j'avais fait le texte à partir des échanges entre Jean-Louis Bory et Georges Charançon.
On
l'avait fait avec Olivier Broche.
Deux critiques littéraires.
Ouais, ouais.
Et c'est un spectacle qui avait bien marché d'ailleurs.
Ah ouais, ouais, ouais. Bon, on aimerait bien le reprendre d'ailleurs. Et il y avait Lucrèce Sacella qui apportait du charme et de la féminité à ce spectacle.
Alors après les
c'était un pari d'ailleurs formidable parce que a priori on se dit c'est antithéâtral, on va parler oui. de films que les gens n'auront pas vus, on va parler d'un film puis encore d'un autre puis etc. Et puis finalement ça parlait aussi de la passion du cinéma et c'est ce qu'on entendait dans ce spectacle.
Après les déchets, François Morel, vous avez avancé, on peut dire, sur plusieurs voies parallèles. Hein, finalement, le théâtre, le cinéma, la chanson, l'humour. Moi, je disais dans mon introduction tout à l'heure, vous étiez un fantaisiste. Est-ce que ça résumerait bien l'ensemble?
J'aime bien, moi. Il y a un petit côté que j'aime bien là-dedans. J'ai de la tendresse. Vous parliez de Robert Lamoureux, par ouais. exemple. J'aimais bien ces petites chansons entre les chansons et les sketchs. C'est très joli, c'est très bien écrit. Robert Lamoureux, il y a partout des gens qui se promènent avec le cœur tout plein de soucis. Pour ouais. tous ces gens qui ont de la peine, ma maison n'est pas loin d'ici, bien sûr, chez moi c'est pas immense, mais il y a quand même un beau jardin. Quand on a le cœur dans la souffrance de voir des fleurs, ça fait du bien. Si ouais, t'as des joli, ennuis, hein. si t'as des soucis, viens à la maison. C'est joli ça, ouais. j'aime bien, moi ça me... Je trouve que c'est bien aussi que le théâtre il serve à consoler un peu parfois, à se réunir.
Mais finalement vous n'avez pas voulu devenir un... J'oserais dire un humoriste professionnel.
Je crois pas hein? que ça soit. Mais j'aime bien le mélange des genres aussi.
Voilà, c'est ça.
J'adore éclater de rire avec les Chiens de Navarre de dimanche dernier quand je suis allé voir le spectacle et juste après être bouleversé. Et c'est évidemment ce qu'il y avait dans les grands spectacles de Jérôme Deschamps que j'ai vu avant d'en faire partie. Quand j'avais vu les Petits Pas, par exemple, c'était à la fois très drôle et très bouleversant. Et la recherche systématique du rire, des fois j'ai pas envie de rire.
Quoi. Voilà, c'est ça. On rit peut-être un peu trop dans les émissions aujourd'hui. Tout le monde passe son temps à rire.
Ah ouais, ouais. Moi j'aime bien aussi de temps en temps qu'on parle tranquillement et qu'on s'écoute. et puis quand on peut rire, tant mieux, parce que c'est quand même c'est important de rire.
À propos de fantaisistes, il y en a une très grande qui est parmi nous, même si elle est aujourd'hui âgée et qui a mené une carrière extraordinaire, c'est Annie Cordy.
Ah oui.
Vous l'aimez, Annie Cordy ?
Il y a des documents sur Internet qui sont formidables. Je crois que l'émission, c'était le palmarès des chansons,
oui.
où on voyait un chanteur chanter plusieurs chansons à la suite. Oui. Et ça, j'adore. Par exemple, il y a Colette Renard qui chante « Tais-toi Marseille oui. ». On voit la qualité de l'interprétation de Colette Renard, c'est absolument bouleversant. Il y a Fernandel qui chante notamment « Je ne sais pas pourquoi les gens riaient », mais c'est merveilleux. Et il y a un document où on voit Annie Cordy chanter Cirrhose. Ouais. Elle est un sens de la présence sur scène. scène, du rythme. Et puis c'est une belle chanson, je crois, de Georges Coulonges, qui a écrit aussi pour Jean Ferrat. Donc je trouve que c'est bien, des fois on sépare beaucoup les choses et tout ça. Georges Coulonges, qui a écrit pour Jean Ferrat des chansons magnifiques, a écrit aussi pour Annie Cordy, et c'est parce que c'est drôle, on oublie de remarquer parfois combien c'est merveilleusement écrit.
Et moi, au bout du comptoir, du petit bar, du bar de Monsieur Edouard, je pense, les copains m'appellent si rose, et je ne comprends pas pourquoi, pourquoi. Bien sûr, ils savent que j'aime les fleurs, mais pourquoi justement si rose plutôt que une ou deux ou trois? Les copains m'appellent si rose. Pourquoi m'ont-ils donné ce nom, ce nom, ce nom, ce nom? Bien sûr, ils savent que j'aime les fleurs, mais pourquoi justement des roses plutôt que des rhododendrons? Et y a Monsieur Edouard, qui derrière son comptoir me dit que sûrement c'était à cause de mes parents. Ah, ça me trouble, ça me trouble. Papa s'appelait pas si rose, puisqu'on l'appelait voix sans peur, sans peur, sans peur, sans peur. Grand-père, on l'appelait la liqueur. Tonton, c'était l'irrigateur. Je vois pas le rapport avec les fleurs, mais s'ils veulent m'appeler si rose, après tout, je peux bien les laisser, 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 laisser. Édouard, serre-moi un muscadet, car il ne faut pas l'oublier. Les roses, il faut les arroser. Les copains m'appellent si rose, et je ne comprends pas pourquoi.
Ah, merci pour ce petit chef-d'œuvre, François Morel. Chanson cruelle en même temps,
très
finalement.
Cruelle, ouais, ouais. Ah oui, c'est ça, aussi un souvenir de papa qui aimait beaucoup cette chanson-là.
Cette chanson. Ouais. Voilà. Alors, en tout cas, on l'a pas rappelé, du temps des chiens, vous aviez déjà contribué à un grand spectacle musical, hein, c'était Les Brigands. À l'Opéra Bastille.
Ouais, j'y participais modestement, mais en tout
cas.
Ah
non, vous étiez là avec Yolande Moreau. Ouais, on ne voyait que vous, hein, au milieu de la scène. Il y avait toute la, des dizaines et des centaines de figurants et de choristes.
C'était assez gai, quoi.
Mais il y avait un peu les, on pourrait dire les déchiens au milieu d'Offenbach, hein.
Ouais, ouais. Je me souviens que les gens du chœur, très gentiment, nous avaient dit, c'est formidable ce que vous faites, mais si vous pouviez éviter de chanter. parce que.
Vous nous troublez pendant les morceaux. C'était, en tout cas, pour moi, un très bon souvenir. Et puis donc, quelques années plus tard, finalement, vous vous êtes lancé dans vraiment l'enregistrement de disques et la création de spectacles chantés. Comment ça s'est décidé?
Par l'écriture des chansons. La rencontre avec Reinhard Wagner, qui est un super musicien. Vous devriez l'inviter.
Oui, d'ailleurs, depuis le temps.
Alors ça, vous devriez, parce que
il y a beaucoup travaillé avec Jean-Michel Ribes aussi, d'ailleurs.
Il y a beaucoup travaillé avec Jean-Michel. Là, je crois qu'il est en train de faire un opéra sur poil de carotte avec Zabou. C'est un type qui a un talent fou et qui a une grande connaissance de la musique. Il a fait plein aussi de musique de film pour Benex et pour Pascal Thomas, notamment. C'est un super grand mélodiste. Et à l'époque, on s'était rencontrés il était venu me voir à l'Odéon quand on jouait les Précieuses Ridicules et il m'avait dit j'ai fait des chansons avec Topor, parce qu'il était très copain avec Topor, et est-ce que tu voudrais pas les chanter? Et moi je lui ai dit mais je ne suis pas chanteur. Et puis je lui ai dit mais en revanche j'aimerais bien écrire des chansons. Et donc on a fait un certain nombre de chansons ensemble, on s'est amusé comme ça.
Comme
puis,
ça, et autour puis, du piano.
Ouais, enfin ouais. J'ai oui, apporté des textes et puis, ouais. Voilà, puis lui transformé un peu de temps en temps, etc. Et moi je l'ai retravaillé après sa musique. Enfin on travaillait bien ensemble et puis on avait eu une quinzaine. Il travaillait à l'époque Reinhardt avec Jean-Michel Ribes, qui a eu connaissance de ses chansons, me disant mais pourquoi tu viendrais pas les chanter au rond-point dans la petite salle, dans la salle Tardieu? J'ai dit oh, bah d'accord, mais il faut que tu me mettes en scène, parce que je m'étais dit si vraiment le chanteur que je suis est trop épouvantable, le comédien essaiera de sauver la soirée, et donc Jean-Michel mettra en scène un comédien qui cherche à être chanteur et qui n'y arrive pas. Et puis finalement j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, on a fait plein de dates avec Reinhardt et ça m'a donné envie de continuer.
Alors, comme dit Jackie Bernard, que vous m'avez fait découvrir un jour, la question du chant.
Ouais.
La question du chant. Non, vous avez pris des cours, sans blague, avec Raymond de Viré.
Oui. J'en prends toujours. La dernière fois, je l'ai vu, elle a trouvé que la voix était un peu fatiguée. C'est vrai, je tire un peu sur la corde en ce moment.
Vous avez plaisir à chanter, mais vous faites des vocalises.
Je fais des vocalises, oui, pendant une heure avec Raymond. Et de temps en temps, elle me traite de connard. et de temps en temps, elle est contente.
Je vois qu'elle a du caractère.
Elle a du caractère. Mais elle me traite de connard assez gentiment, d'ailleurs, quand même. Ouais. Mais oui, j'aime bien. Je pense que la voix a un peu évolué entre le premier disque et le dernier.
Et puis après tout, il y a quand même une tradition d'acteurs qui chantent,
bien sûr,
qui est très importante.
C'est
même,
quand même pas
qui ne sont pas forcément des chanteurs au sens strict.
Des interprètes, quoi, aussi. Ouais. Des interprètes. Et bon, c'est pour ça aussi que en général je chante plutôt mes chansons parce que je sais que je suis pas une grande voix, mais
non, dites pas ça.
Vous êtes, il y a de l'ironie dans votre regard,
non,
et ça ne vous grandit pas, Benoît.
Alors, pour prouver le contraire, je vais passer une chanson que j'adore. Vous êtes avec Antoine Salaire, on reparlera de lui tout de suite après. Ça s'appelle Truc Inutile.
Ah, d'accord.
Elle est formidable, non?
Moi, je l'aime bien.
Oui.
Ouais, c'est une chanson d'Antoine.
La date de naissance d'Adamo,
1er novembre 43.
Le nom du chien de Belmondo,
Pini.
La taille du général de Gaulle,
1m87.
Le plat préféré d'Helmut Kohl,
le rôti de bœuf mariné.
Le nom de mon ancien collège,
Sainte-Marie-la-Flaire.
Les sous-préfectures de l'arrière,
Saint-Girons-Pamiers.
La pointure de ma tante Gisèle,
elle fait du 47.
La densité de La Rochelle,
2700 habitants kilomètres carrés.
Tous ces trucs inutiles qu'on a dans le cerveau, toutes ces choses futiles, tous ces détails idiots, pourquoi ils restent là? Pourquoi ils s'en vont pas? Tous ces souvenirs tenaces qui prennent de la place. Et la place de quoi? La date de la mort de Guy Lux,
13 juin 2003.
Le PIB du Benelux,
28 milliards d'euros.
Le nom civil de Barbara,
Monique Serre.
Le prix Goncourt en 63.
Quand la mer se retire d'Armand-Lannoy, je l'ai pas lu.
Le nom des habitants de Meaux,
les Meldois, hein.
Et le poids moyen d'un cerveau,
1,4 kg.
La dernière adresse de Topor,
38 rue du Faubourg Poissonnier.
Et les derniers mots d'Edgar Faure.
L'immobilisme est en marche et rien ne peut l'arrêter.
Tous ces trucs inutiles qu'on a dans le cerveau, toutes ces choses futiles, tous ces détails idiots, pourquoi ils restent là? Pourquoi ils s'en vont pas? Tous ces souvenirs tenaces qui prennent de la place. Et la place de quoi? La date de sortie des choses de la vie,
13 mars 1970.
Le code pour rentrer au 17 rue Rodier,
42 B23.
42B23. Pourquoi je me souviens de ça?
Pourquoi je me souviens de ça? Vous posez vraiment la question?
Oui.
Oui, parce que c'est le code pour rentrer chez vous.
Ah, c'est vrai.
Donc c'est quand même bien de le savoir, si vous voulez. Non, mais... Il y a quand même deux, trois choses qu'il faut savoir. Hein.
Pourquoi il reste?
Parce que c'est pas votre Edgar Faure qui va vous ouvrir la porte. Allez.
Pourquoi il s'en...
Je crois que vous vous posez trop de questions. Mais à un moment donné...
Tous ces souvenirs tenaces qui prennent de la place.
Respirez, prenez la vie du bon côté, vous voyez.
Et la place de quoi?
Un mètre 96 de Gaulle, hein.
Bah oui,
c'est vrai?
Bah oui. Bah évidemment, on a vérifié. Hein.
Alors là, c'était Truc Inutile avec François Morel, mon invité, et Antoine Salaire. Et il faut en parler parce que donc, vous nous avez parlé de Reinhard Wagner. On a compris que c'est lui qui vous avait mis le pied à l'étrier de la chanson. Mais Salaire, c'est devenu le complice absolu ces dernières années.
Indispensable. Oui,
vous êtes rencontré comment?
Grâce à Juliette, émission sur France Musique. D'Ariel Buteau, le mardi idéal. On était deux des invités de Juliette. Moi, je faisais un duo avec Juliette à l'époque sur une scène de ménage et qui s'appelait quoi? J'ai un trou, mais je sais plus. Une chanson qui était assez drôle, écrite par Juliette. Et Antoine chantait une chanson sur Brassens. Et elle était magnifiquement écrite. Et c'était sur le goût, en général, des maisons de disques pour les chanteurs morts. Et sur le fait qu'ils s'intéressaient moins aux chanteurs jeunes et vivants. Et c'est une chanson admirablement écrite. Et on a vite plaisanté ensemble. C'est quelqu'un qui a vraiment un univers à lui, il a une présence sur scène.
Il est à la fois
formidable.
Musicien et comédien.
Mais il est devenu comédien au fur et à mesure.
Vos spectacles.
Oui, dit par capillarité, mais peut-être. Mais il est charmant, il est drôle, il est extrêmement talentueux, il est modeste, et il est incroyable. Non, mais c'est un type formidable. J'ai deux musiciens, en fait, parce que justement...
Alors, dans le spectacle de Vos, moi, il se trouve que j'avais déjà vu Antoine Salaire avec vous, mais là, j'ai vu l'autre...
Romain Lemire.
Pianiste et comédien du spectacle, Romain Lemire.
C'est-à-dire que Romain est plus comédien, un petit peu moins musicien, mais il se débrouille très bien, et Antoine est plus musicien, un peu moins comédien, mais il se débrouille aussi formidablement.
Et vous avez concocté un peu ensemble cette construction
Romain était là dès le début, il a fait l'assistanat à la mise en scène avec moi dès le début, donc il a assisté à toutes les répétitions. Et puis, Antoine avait envie d'écrire son propre disque, de faire son propre spectacle. Donc, il n'avait pas envie de lâcher l'affaire quand même. Donc, il avait envie d'être avec moi pour créer le spectacle. Et ensuite, il s'arrange avec Romain. On a dû fêter la 150e représentation hier, l'un et l'autre en ont fait 75 et ils continuent d'avoir envie de le jouer.
Voilà, alors musicalement sur scène, il y a deux sortes de pianos, un vrai et un faux, on peut dire.
Les
deux sont vrais. Mais le faux parfois se met à jouer tout
plutôt,
seul.
Il y a plutôt un faux pianiste.
Voilà, c'est ça.
Un faux piano.
Et puis d'autres instruments comme le mélodica, mais aussi la scie musicale,
la
très
scie
importante
musicale.
Dans l'univers de DeVos,
évidemment.
Et puis les verres à moitié pleins ou à moitié vides sur lesquels on peut régler la tonalité.
Sur lesquels on peut jouer la truite de Schubert.
On peut jouer la truite de Schubert. C'est un très joli sketch également. Tout ça
là, c'est par exemple très adapté. Ouais. C'est-à-dire là, j'ai pris le principe du sketch de Raymond DeVos, mais j'ai fait mes propres improvisations à ce moment-là.
Ah oui, vous voyez, moi je sais pas.
Ouais.
Vous voyez, je sais pas quand c'est vous, quand c'est lui. Heureusement d'ailleurs.
Quand je parle de monsieur et madame Biessy, les directeurs de la Scala,
ça j'ai compris que c'était vous. En tout cas, voilà. Bah, on va écouter, tiens, un tout petit extrait. Le son est pas extraordinaire, mais quand même, pour avoir l'ambiance du spectacle, et puis avec notamment d'ailleurs ce texte de DeVos que j'adore. C'est simple, mais c'est génial, quoi.
Mesdames, messieurs, le clou du spectacle. Donnez-moi là.
C'est un sol là.
C'est pas un sol là.
Si.
Un jour, j'étais en train d'enfoncer un clou dans un mur et un type qui passe, il me dit pourquoi vous enfoncez ce clou? lui dit, vous prenez plus de la soeur de jeunesse, on pense un coup, j'en pense un coup. Il dit, j'aime bien savoir pourquoi. Il lui dit, je ne peux pas vous dire pourquoi, j'en pense un coup, j'en prends un coup. J'avais presque pas tellement en frontière, et c'est ça, le type, il sort une tenaille, il marche. On lui dit, mais et pourquoi vous arrachez ce clou? Il me dit, j'ai pas d'explication, vous savez. Il dit, j'aime bien savoir pourquoi, il dit, pour vous dire pourquoi, il est fou ce type, moi, c'est une histoire insensée. Je suis en train d'enfoncer un clou, il y a un type qui arrive avec une tenaille, je peux penser à ça, ça va devenir une idée fixe.
Voilà, visiblement le micro était dans la salle, les gens sont morts de rire, quitte à vous couvrir légèrement.
Et moi dans la bouche j'ai le Mélodica.
Donc c'est pour ça aussi c'est que ma vous jouez justement pas, du Mélodica. Oui, ouais. Mais ce texte est tellement hors de tout, temps, hors de la raison. Hors de... Enfin, c'est vraiment, c'est le pur génie de De Vos, et c'est le plaisir de ce spectacle où on se laisse emporter dans son monde et dans le vôtre, François Morel, avec donc Antoine Salaire et Romain Lemire. Là, Juliette n'est pas intervenue cette fois.
Hein. Pas du tout.
Voilà.
Non.
Parce que c'est aussi, on peut dire, votre depuis cette rencontre à France Musique, une complice de beaucoup de vos spectacles.
Elle a mis en scène deux de mes spectacles musicaux, puis le disque breton qui va sortir sur Yves-Marie Le Guilvinec, on a encore fait un duo tous les deux. J'admire aussi beaucoup. En fait, j'aime bien admirer mes copains.
Oui, c'est mieux,
ouais.
Finalement, que de les mépriser, je ce trouve, serait dommage. Ouais. Et vous avez donc écrit aussi ces derniers temps donc un certain nombre de livres. Vous écrivez beaucoup. En fait, vous êtes un homme de l'écrit, François Morel.
Ah ben ouais.
Oui.
Ouais,
vous écrivez tout, de toute façon, vos sketchs, vos chroniques, vos.
Oui, des fois j'écris debout en faisant le. Par exemple, il y a plein de choses qui ont été écrites dans le spectacle de Vos un peu debout, par improvisation devant le public, etc. Parce que les gens qui voient le spectacle, qui ont vu le spectacle il y a un an et qui le revoient aujourd'hui, disent mais ça, vous avez beaucoup changé beaucoup de choses. Et moi je m'en suis pas rendu compte, mais imperceptiblement chaque soir on cherche des choses, on invente, on essaie de ne pas s'ennuyer quoi.
Voilà, mais vous aimez bien écrire des livres par
bien.
Ailleurs.
Mais j'écris des chroniques. Alors le livre de chroniques, il s'écrit tout seul, quoi. C'est-à-dire que au bout de deux ans, j'ai un livre qui s'est écrit parce que chaque
semaine. Ça, c'est
France
Inter, oui.
Ça, voilà.
Enfin, vous avez écrit aussi des livres qui sont plus des livres simplement de littérature.
Mais oui, on avait parlé de vaches ensemble.
Voilà, exactement.
Quand j'avais fait Meux.
Meux, voilà, un livre que je recommande beaucoup. Vous en êtes où niveau vache?
Au niveau vache?
Vous allez donc dans le Morbihan, mais sur les îles du Morbihan, il n'y a pas tellement de vaches.
Ah si, il y en a. Oui, ah si, il y en a. Il y a plein de vaches, même, de plus en plus sur la petite île où je vais. C'est marrant parce qu'il y a un jeune homme, une jeune compagnie qui a pris ce texte Meux pour en faire du théâtre. Donc je serais très curieux d'aller le voir bientôt là.
Voilà, et puis vous avez également écrit alors les bonnes résolutions du Père Noël.
Ça c'est une histoire et au lit, c'est-à-dire c'est France Inter encore qui oui. Ce sont les podcasts pour les enfants.
Voilà. Et ça vient de sortir chez Michel Lafon.
Ouais. Voilà. C'est une jolie collection.
Voilà, et c'est un texte original
Et c'est surtout Lily la baleine qui a fait des très très jolis dessins.
Voilà, donc un livre qu'on peut recommander pour Noël chez Michel Lafon, coédition France Inter. Je propose qu'on retrouve Juliette dans une chanson que j'aime bien, qui s'appelle justement « J'aime pas la chanson ». Je crois que c'est dans son dernier album.
Absolument, mais je crois qu'elle, dans le fond, elle connaît très bien et elle aime beaucoup la chanson.
« J'aime pas la chanson, on peut pas s'y fier, c'est par réfraction qu'elle préfère entrer. La v'là qui se radine et dès le réveil, elle vient en chafouine te ronger l'oreille. Et dans ton cerveau, v'là que tourne en rond, à coups de marteau, trois notes à la con. J'aime pas la chanson. J'aime pas la chanson, elle sait pas se tenir. Quand on a le bourdon, ça la fait sourire. Elle pleure sa misère quand le ciel est bleu. Ou bien le contraire, elle sait pas ce qu'elle veut. Faut voir comme elle change d'avis et de ton, et comme elle mélange serviette et torchon. J'aime pas la chanson. Quelle
se démène, qu'elle se promène, qu'elle s'amourache, qu'elle porte moustache, qu'elle s'époumonne, se tire l'ipimpone, qu'elle perde son souffle en pantoufle en moufle, qu'elle livre bataille, qu'elle reste où s'en aille, qu'elle dise oui ou non, j'aime pas la chanson. J'aime pas la chanson, elle se prend pour quoi, donneuse de leçons, en grand tralala, la voilà qui hume, la voilà qui gronde, et même pas foutue de changer le monde. Mais tant qu'elle n'essaye qu'avec des flonflons, c'est pas demain la veille, la révolution, j'aime pas la chanson. J'aime pas la chanson, souviens-toi, dit-elle, d'un air polisson, de quoi elle se mêle. Ne lui parlez pas, elle répète tout ce qu'elle dit de moi, elle dit de vous. Et la mort et les trahisons, que ce soit mon sort, c'est pas ces oignons, j'aime pas la chanson. Qu'elle se démène, qu'elle se promène, qu'elle s'amourache, qu'elle porte moustache, qu'elle s'époumonne, se tire l'ipimpone, qu'elle perde son souffle en pantoufle en bouffe, qu'elle livre bataille, qu'elle reste où s'en aille, qu'elle dise oui ou non, j'aime pas la chanson. Pas la chanson, c'est parce que sans doute j'en connais le fond, les cales et les soutes, tant d'heures de trime et tant de questions à chercher la rime, à bouffer du son. C'est une vie entière pendue au crayon, tout ça pour ne faire, pauvres ambitions, rien qu'une chanson. Une qui se démène, une qui se promène, une qui s'amourage, qui porte moustache, une qui s'époumonne, se tire l'ipimpone, une qui perd son souffle en pantoufle en moufle, qu'elle livre bataille, qu'elle reste ou s'en aille, qu'elle dise oui ou non, rien qu'une chanson.
Juliette, très jolie chanson, très moi jolie. J'adore.
Très grande interprète, très bonne musicienne, très bonne auteure.
Voilà, et très grande amie donc de François Morel, que vous pouvez, vous, on l'a dit, écouter également c'est le vendredi, hein,
vendredi matin.
Matin sur France Inter. Oui. Vous venez parce que vous habitez assez loin de Paris.
En général, je viens, mais là j'ai un peu de difficulté. Je vous cache pas, là, depuis quelques
vous utilisez
semaines.
Le moto-taxi, c'est ça?
Souvent, ouais.
Oui, c'est pratique.
Ouais.
Pour
des
passer
fois, je
dans
prends
les
un hôtel à côté aussi.
Vous prenez un hôtel à côté, ouais. Mais vous préférez être là pour le faire.
C'est mieux. C'est mieux. Même, hein. C'est mieux. Ouais, voilà. Ouais.
Vous vous intéressez à la société, à notre époque. Vous voulez, dans vos chroniques, quand même, vous en parlez un peu aussi. Même si le soir, au théâtre, avec De Vos, vous essayez d'aller de partir
vers les
ailleurs.
Bah oui, le matin, je lis les journaux.
Le matin,
et
c'est
le
l'époque.
Soir, et le soir, les livres.
Et vous l'aimez, cette époque?
Ah.
Compliqué.
Oui, elle est compliquée. Il y a des choses que j'aime. Oui.
Vous râlez. Parfois, vous avez dit, comme j'ai l'image d'un brave type, quand je m'énerve, ça marche.
Bah, c'est-à-dire, j'ai pas envie de m'énerver chaque semaine. Voilà. J'ai pas envie d'être le type qui se fâche chaque semaine. Donc, puis en général, j'ai plutôt bon caractère, quand même. Bon. Mais donc ça veut dire que quand j'ai une vraie colère, on l'entend plus que si j'étais un robinet à colère, quoi.
Voilà, exactement. Tiens, encore une question avant qu'on retrouve dans quelques minutes Nicolas Destiendorf pour son dictionnaire du mauvais goût. J'ai vu que vous aviez une passion pour les bidasses en folie.
Passion, le mot est fort, mais ça m'avait fait rire quand c'était sorti et j'allais le voir au cinéma Le Viking.
En secret, de vos amis. Non, vous cachez pas.
Ah bah non, mais j'avais 11 ans, je crois.
Ah non, à 11 ans, ça va, mais aujourd'hui, si vous y alliez, oui, évidemment.
Bah, ça sort plus beaucoup, quand même. Mais il y avait des choses drôles, il me semble.
Peut-être, en fait. Oui, vous voyez, j'en pense du mal sans les avoir vus parce que je pense que c'est de mauvais goût.
Ouais. Non, ça, faut revoir ça. Bon. Celui-là, particulièrement. Il y en a des moins bons après, des Charlots, mais celui-là, il est assez drôle.
Bon, bah, très bien. Merci pour le conseil, cher François. Et puis, j'espère que vous reviendrez encore régulièrement.
Quand vous voulez.
Ici. On va se quitter avec une de vos chansons dont le titre est tout un programme, La vie, la vie, la vie.
C'était ce qui concluait mon précédent spectacle de chansons, oui.
Voilà, c'est avec Antoine Salaire pour la musique.
Absolument. Ouais.
Et ben voilà, merci en tout cas d'avoir été là ce matin et à très bientôt.
Plaisir, merci.
Début des cris et puis le silence. Quand ça disparaît comme par magie, on ne sait jamais pourquoi ça commence. On ne sait pas plus pourquoi ça finit. Au début du film, On est dans la brume, on met le nez dehors. On attrape un rhume, on sait rien du tout, même pas son nom. Ça finit un peu en queue de poisson. La vie, 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 la vie. La vie, la vie. Au début des cris et puis le murmure d'une voix fragile qui soudain se tait. On ne sait jamais combien tout ça dure. Une éternité, le temps d'un café. Parfois ça renonce, parfois ça s'agrippe, ça peut s'arrêter à cause d'une grippe. Parfois ça construit en dessous des bombes. Ça peut rigoler un pied dans la tombe. La vie, 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 la vie. La vie, la vie. On écrit des livres, on invente des dieux. C'est qu'on voudrait bien une explication. On rêve d'un ailleurs, d'un paradis tout bleu, pour jouer un peu les prolongations. On hésite encore sur l'emploi du temps, être Marilyn ou bien Jeanne Calment. Comme quand surgit la fin des vacances, on serait pas contre que ça recommence. La vie, 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 la vie. La vie, 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 la vie. La vie, la vie. Et puis, le silence.
La vie, la vie, la vie, c'était donc François Morel qui était ce matin mon invité et qui est donc toujours jusqu'au 5 janvier à l'affiche de la Scala dans ce très beau spectacle hommage à Raymond Devos, J'ai des doutes, qui partira ensuite en tournée dans toute la France. Thank you. Donau Wellen Swing, c'était l'excellent Klaus Wunderlich sur son orgamon. Tiens, je sais pas d'ailleurs si ça c'est de bon ou de mauvais goût, mais on va pouvoir en parler tout de suite avec Nicolas Destiendorf. Bonjour Nicolas.
Mon Benoît, quel plaisir.
Je voulais vous accueillir sur cette musique du chroniqueur parce que c'est l'occasion de rappeler que vous avez tenu longtemps dans cette émission une chronique qui était extrêmement populaire, qui suscitait des quantités de réactions.
Chronique de sinistre mémoire, avouez-le.
Non, c'était les auditeurs d'ailleurs m'en ont réclamé et re-réclamé par la suite. La plupart vous adoraient. Il y en avait certains qui vous aimaient moins. Et en général, parmi les reproches qu'ils pouvaient faire à votre chronique, c'est que c'était peut-être d'assez mauvais goût. Alors, est-ce que vous êtes un porte-parole du mauvais goût, un dénonciateur du mauvais goût, Nicolas Destiendorf, puisque vous venez de lui consacrer une encyclopédie du mauvais goût?
Alors, c'est très compliqué comme question. C'est-à-dire que le mauvais goût, je l'incarne, je l'illustre à ma façon, par certains de mes goûts.
Pas par votre façon raffinée de vous habiller, par exemple.
Disons que j'aime les tenues colorées. En fait, j'aime ce qui dérange et ce qui gratte. Donc, voilà. En fait, dans mon livre, il y a du mauvais goût positif, poussant haut, et négatif, poussant en bas.
Voilà, c'est ce que vous expliquez. Hein, voilà. Par exemple, vous adorez les animaux empaillés, ça c'est un vrai mauvais goût que vous revendiquez. Par contre, quand vous parlez des Miss France, c'est un mauvais goût que vous conspuez.
Ah, que je déteste. Pour moi, les Miss France, c'est la manifestation la plus, pour le coup, la plus sexiste et la plus incroyablement misogyne que je connaisse.
Vous avez des expressions merveilleuses. D'ailleurs, vous parlez du panthéon des cruches.
Absolument. C'est ce soir, non, d'ailleurs, il me semble.
Ah bon, c'est ce soir, bah justement. Une façon de les célébrer.
Cruches de tous les pays, unissez-vous.
Alors oui, c'est ça. Donc, vous avez écrit une encyclopédie du mauvais goût. C'est un livre très amusant à lire, très joli, ce qu'on appelle un beau livre, n'est-ce pas? Parce qu'il est richement illustré, avec toujours un petit texte de vous à droite, à gauche, pardon, et une photo à droite qui illustre le même sujet. C'est un excellent choix de photo. Et voilà, tout ça nous fait voyager au pays du mauvais goût à travers toutes sortes de sujets. Ça commence par l'andouillette.
Ça va d'andouillette à zone d'activité commerciale. Voilà, donc ça. Et ça passe par la mission Racine, effectivement, les Miss France, les petites filles maquillées, les chiens bras, Belle du Seigneur, le nouveau roman. J'aime bien, voilà, je suis assez éclectique dans mes
choix
de mauvais
goût. Mais vous
avez
vu, quand vous avez croisé François Morel dans le studio et qu'il avait feuilleté avec beaucoup d'amusement votre livre, il vous a dit quand même, l'andouillette, je suis pas d'accord.
Alors pour moi, l'andouillette, c'est du mauvais goût positif. C'est ce qui est considéré comme du mauvais goût et que je défends comme étant un mauvais goût de qualité.
Voilà. Par contre, Florent Pagny qui chante l'opéra,
je pense qu'on est là tombé dans les catacombes de la bassesse et de la nullité musicale.
Vous avez des phrases terribles. Son disque, alors il s'agit du disque Bariton. Hein.
Qui était sorti il y a une dizaine d'années.
Son disque est au Panthéon classique ce que le nain de jardin est au château de Vaux-le-Vicomte. Une triste entité velue, vacharde, agressive, plantée dans la glaise avec une rage de coquelet dépressif. Ça, ce sont des expressions qui n'appartiennent qu'à vous d'ailleurs.
Voilà, mais je trouve que ça résume bien. Il n'y a qu'à regarder cette photo. Il est là avec sa petite barbiche.
Et il n'y a qu'à écouter la Donna Mobile.
La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento. E di pensier, e di pensier. E sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, malcauto il core, pur mai non sentesi felice a pieno, qui su quel seno non li va amore. La donna è mobile,
De souffrir, Nicolas.
Non, vous savez, ça fait penser au cri d'une personne qui se cogne l'orteil dans une salle de bain, sur le coin de l'évier, qui pousse un hurlement engorgé. Les aigus de Florent Pagny ressemblent à ça.
Voilà. Après, évidemment, Roberto Alagna, il y a quelques semaines, c'est difficile de supporter la comparaison. Bon, le mauvais goût, Nicolas Desiendorf, est-ce que, au fond, nous qui aimons Tino Rossi, Luis Mariano, Reda Kerr, on n'est pas là dans le mauvais goût, alors que ce sont aussi des amours sincères, finalement?
Alors, c'est la sincérité, c'est ça. Peut-être le mauvais goût, c'est une histoire de sincérité. Il y a le mauvais goût, il y a le goût décalé, le goût rétro, le goût d'une autre époque. Là, Florent Pagny, c'est un mauvais goût universel. Là, je vous dis, on touche presque à la métaphysique. Avec Reda Kerr, on est dans la nostalgie. C'est quelque chose de beaucoup plus délicat, qui demande une certaine pratique, un certain exercice, mais on peut y trouver des beautés. Dans ce qu'on vient d'entendre, il n'y a rien.
Mais on peut trouver des beautés, par contre, par exemple, aux boucheries chevalines, d'après vous.
Ah bah, les boucheries chevalines.
Ça, c'est du mauvais goût positif.
Ah, c'est du mauvais goût positif. C'est très bon, le cheval. Il y en avait.
Les boucheries chevalines, il y en avait. La moitié des auditeurs ados, attention, là.
L'autre jour, j'ai mangé un cœur de poulain, c'est délicieux.
Un cœur de poulain. Là, ça pleure dans les foyers, ça couffe le poste. J'adore aussi, à la page suivante dans votre livre, alors c'est joliment illustré, les boudins en forme de teckel. Vous savez, des espèces de pluches allongées qu'on trouve dans certains salons.
Pour lutter contre les courants d'air.
Voilà. Pour qu'on met sous la porte, voilà, pour lutter. Ça, c'est pas de très très bon goût. Hein.
Non, mais il y a une certaine tendresse.
Et puis les Champs-Élysées.
Ah, les Champs-Élysées, pour moi,
c'est devenu l'avenue du mauvais goût.
Ah, bah, c'est l'avenue, c'est ce que les marchands du temple ont de plus laid. C'est juste une fête de cataracte.
La plus belle avenue du monde, Nicolas.
Alors, plus belle avenue du monde dans le principe, la perspective, mais regardez les immeubles, ils sont tous affreux. C'est à part quelques immeubles élégants, c'est dans ce que les années Pompidou et les années de Gaulle, et ça, on fait de plus bétonné, de plus laid. C'est très très laid. Et puis alors la faune, franchement, c'est que des gens hérissés de sacs griffés avec marqué des marques qu'on n'a pas envie de pratiquer, qui ont l'air totalement écarquillés, comme s'ils descendaient d'un avion. Voilà.
Donc, les Champs-Élysées, c'est un des chapitres de l'encyclopédie du mauvais goût de Nicolas Desiendorf. Vous m'avez proposé, parmi les illustrations musicales, un morceau qui a fait fureur il y a quelques décennies maintenant. C'était la ballade pour Adeline de Richard Clayderman.
Alors, la ballade pour Adeline, ce que j'aime, c'est que Richard Clayderman, c'est un pseudonyme, il s'appelle Philippe Pagès. Et quand on a un joli nom français qui fleure bon le terroir, ça sent le gaillac.
Pourquoi s'appeler Richard Clayderman?
Ça sent le saucisson de la Cône, c'est ça qui est bon. Et ben, rien que pour le pseudonyme, c'est d'un tel mauvais goût. Puis la musique, ça, c'est le... Là, c'est...
demander encore ?
Non, je crois qu'on peut s'arrêter là.
On peut s'arrêter. C'est de la musique sans musique, c'est ça qui est merveilleux.
Et des millions d'exemplaires de part et d'autre du globe. Et lui, avec ses deux, trois accords et sa petite tête, vous savez, de caniche bien peignée, impeccable, c'était blond, c'était propre. En fait, il ressemblait aux enfants de Claude François. C'est très étrange. Et ça a marché, ça a duré.
Donc le mauvais goût gouverne le monde, Nicolas Détienneur.
Voilà, d'un certain point de vue, je devrais être président. Voilà, ou pape.
Alors, dans le mauvais goût, et d'ailleurs dans votre encyclopédie du mauvais goût, il y a donc tous ces aspects dont vous venez de parler, le mauvais goût insupportable, ridicule, les vulgaires. Il y a aussi le mauvais goût de la provocation volontaire. C'est aussi un chapitre très important. Vous parlez par exemple d'Harakiri.
Alors moi, je suis un grand défenseur d'Harakiri, de l'esthétique Choron, de l'esthétique Grézère et de tout l'esprit bête et méchant des fondateurs de Cavana, de GB, de toute cette bande-là et de Choron. Mais avant que ce soit repris et que ça devienne un organe politique et un journal vraiment, vraiment engagé, quand il tirait de tous les côtés, c'était d'une honnêteté intellectuelle, en fait, assez
mais là,
étonnante.
C'est du mauvais goût, surjoué, assumé.
Ah, mais c'est presque voilà. Une oui, comme disent certains, c'est une mystique du mauvais goût. Là, ils vont au-delà de tout. Mais vraiment, c'est pour moi, c'est remarquable, c'est pyramidal.
Et il y a un autre artiste aujourd'hui qui, je sais, qui vous est très cher. D'ailleurs, c'est vous qui me l'aviez fait découvrir, qui pratique volontiers aussi ce jeu avec le mauvais goût, même s'il aime bien faire croire qu'il est au premier degré. C'est Didier Super.
Alors, Didier Super, j'avais découvert ça il y a 15 ans. Ça a été une sorte de dépucelage moral pour moi, esthétique. Et voilà, j'ai trouvé enfin quelqu'un qui faisait une musique qui parle vraiment à mon cœur, parce qu'avant j'étais passé par Wagner, par Bach, par voilà, Rameau, et tout à coup Didier Super, je suis passé dans une autre dimension.
Et bah tu vois là, je vais te faire une chanson, et bah la chanson là, et bah à chaque fois que je la chante, et bah il y a plein de gens, bah ils veulent me taper. Les Arabes, c'est comme les lesbiennes et les drogués, les Romanos, les artistes et les putes, les handicapés, c'est comme les lépreux et les noirs. Les clochards, c'est comme les travelots et certains jeunes. Y'en a des biens, y'en a des biens, y'en a des biens, y'en a des biens, bien, bien. Les esthéticiennes comme les gonzesses, plus connes qu'une blonde. Les mecs encore plus cons qu'une esthéticienne, comme beaucoup de mecs. Les gros chefs d'entreprise comme les mecs qui vont aux putes. Le pape et ses copains comme certaines marques de capotes. Y'en a des biens. Allez, y'en a des biens. Allez, on chante. Y'en a des biens. Y'en a des bien, 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 youpi! Là, par exemple, bah, ça peut être bien, mettons, t'écoutes le disque avec tes copains, mais et bah, tu fais une gueuloulou. Je suis sûr, en plus, y'en a, ils vont le faire. Les politiciens, comme les trafiquants d'armes. Les présidents de la République, comme les petits escrocs. Les alcooliques et les dépressifs, comme les mecs dans la police. Le curé intégriste, comme les pédophiles. Allez! Y'en a des biens! Y'en a des biens! Ouais! Y'en a des biens! Y'en a des biens, bien, bien! Mais quand même, des fois, y'en a, ils font chier!
Nicolas Destiendorf qui a choisi Didier Super.
Racan, Malherbe, Chamfort, Didier Super.
Didier Super. Et sa petite sœur, si on peut dire que vous aimez beaucoup aussi.
Ah, Guédré, que j'aime beaucoup, beaucoup de talent aussi.
Voilà. On aurait pu évoquer encore, il est dans votre encyclopédie du mauvais goût, Francky Vincent. Lui, c'est plutôt la scatologie qui a fait son génie, d'une certaine façon.
La grande scatologie des îles, Cacapoule, voilà, Tu pues du cul, enfin, des vrais textes.
Voilà, les vrais textes que vous pouvez retrouver avec les illustrations dans pas le dictionnaire du mauvais goût, de Nicolas Destiendorf chez Michel Lafon. Il y a aussi un chapitre sur Mozart, l'opéra rock. Alors ça par contre, ça vous détestez, ça. C'est mauvais goût, vraiment bas de gamme.
Sans contrepétrie, vous excitez ma verve, là, Benoît.
Alors, on va l'écouter, Mozart, l'opéra rock, juste un petit mot.
Je suis prêt à toutes les souffrances, allons-y.
Divine, condie de libertine, ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir
rire les maris, allons nous aimer, on est des braves gens. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai frivole et décadent pour te surprendre.
Mozart, l'opéra rock.
C'est-à-dire la vie de Mozart réduit au rang d'opéra rock sans une seule note de Mozart à part au moment de l'entracte où les gens vont faire pipi. Voilà ce que ça donne.
Voilà, merci Nicolas Dessienhorst d'avoir été à mes côtés ce matin pour votre encyclopédie du mauvais goût. J'espère que ce ne sont que des retrouvailles provisoires qui seront bientôt suivies d'autres apparitions à ce micro.
Moites et joyeuses, à bientôt
Benoît.
De France
Musique et des auditeurs qui vous adorent. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui, à la technique, Stéphane Poitevin et Audrey Guélil. Réalisation, Christine Amado. Et samedi prochain, à quelques jours de Noël, ce sera un spécial Offenbach avec mon ami Jean-Christophe Keck. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.